Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour cette soirée de présentation de Fratello. Vous avez vu la publicité via Facebook, via le site, depuis quelques temps. Et nous avons l'honneur, la joie d'avoir les auteurs du livre avec nous. C'est eux qui vont nous présenter l'esprit de Fratello. La François Gragnon, le frère Daniel Marie, que vous connaissez bien. Voilà donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Et à vous la parole pour nous présenter, nous séduire, comme vous savez faire, avec le contenu de ce livre.
Bien. Moi, je ne vais pas vous parler du contenu du livre, à proprement parler, mais plus exactement des thématiques qui sont contenues. Je crois que frère Daniel va faire de même tout à l'heure. On ne s'est pas concerté, donc il va peut-être y avoir des répétitions, mais il n'y a jamais de répétition pour le cœur, donc je pense qu'on peut entendre des choses plusieurs fois, de diverses manières, entre un laïc et un religieux. Voilà, moi j'aimerais commencer ce soir, d'abord je vous remercie d'être là, je crois qu'on est à guichet fermé, hein. Il y a une place encore. J'aimerais commencer ce soir par une expérience mystique que je vous propose. Je sens que le frère François, d'ailleurs, n'est pas très tranquille parce qu'on a mangé pour effectoire tout à l'heure des champignons dont on ne sait pas s'ils sont hallucinogènes. Certains qui ont déjà très avancé la lecture de Fratello comprendront l'allusion. Voilà. Donc, je voudrais simplement... Parce que, bien évidemment, vous savez que c'est l'heure de la quête. Mais c'est une quête très particulière, c'est une quête initiatique. Et j'aimerais savoir, les plus zélés d'entre vous, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous voyez ?
Un billet.
Et à part ça ?
10 euros.
Un bout de papier.
Un bout de papier, oui. Et regardez bien quand même, regardez bien. Exercez votre regard. Là, vous développez beaucoup. Moi, je vous demande simplement de regarder.
Une église.
Oui, on peut voir ça. Bon. Fin de la récré, s'il vous plaît. Non, en fait, il y a effectivement un billet, et justement, vous n'êtes pas très loin de la réalité, c'est qu'il y a un filigrane dans ce billet. Et qu'est-ce qui donne l'authenticité et la valeur au billet? C'est le filigrane. Et alors, je voulais vous amener à réfléchir sur un plan métaphorique, nous sommes ici dans un couvent, sur l'idée que ce qui donne valeur à notre vie, c'est un certain filigrane, et ce filigrane, c'est celui de la foi. La foi, c'est véritablement le filigrane de notre vie. Ce qui n'apparaît pas de manière immédiate, ce qui appartient au monde de l'invisible, sans doute, et qui cependant est bien présent. Et il y a tout un passage dans le livre qui va être un peu le déclencheur de cette mise en route de notre personnage, qui s'appelle Jean, qui est un jeune homme de 18 ans, un jeune homme tout à fait ordinaire, qui est étudiant, qui ne sait pas ce qu'il attend dans cette aventure. Et le point vraiment très crucial, où il commence vraiment son cheminement spirituel, c'est quand il entend parler des yeux fertiles. Et à travers cette expérience que j'appelle mystique, du billet, je voulais vous montrer que derrière ce qui peut paraître très usuel, très courant, très monnaie courante, j'allais dire, c'est le cas de le dire, oui, eh bien, se cache quelque chose que nous n'avons pas l'habitude, auquel nous n'avons pas l'habitude de prêter attention. Et c'est précisément là, pour moi, le tout départ de la vie spirituelle, c'est l'attention. Avec frère Daniel, on a beaucoup discuté justement des thématiques que nous voulions aborder dans ce livre. Et bien évidemment, j'étais à l'école de beaucoup de choses, notamment sur les... On en parlera tout à l'heure, si vous voulez bien, du combat spirituel, qui n'est pas aussi manichéen qu'on imagine, avec d'un côté le bien, de l'autre côté le mal, on fait partie des gens bien, puis le mal c'est les autres. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais il nous a semblé, je pense, que je peux inclure frère Daniel... Dans cette réflexion, c'est que l'attention est vraiment le point de départ de tout. C'est être attentif. Alors attentif à quoi? Eh bien d'abord aux signes. La médiation de Dieu, c'est à travers les rencontres, c'est à travers les événements. Donc il nous faut apprendre à lire ces signes. Je vous parlais de quête tout à l'heure, c'était une allusion un peu furtive par rapport au lieu dans lequel nous sommes, mais je voudrais vous parler maintenant de ce qu'on appelle la quête initiatique. C'est presque d'ailleurs un pléonasme, parce qu'une quête est forcément initiatique. Pourquoi? Parce qu'elle nous met en route, elle nous met en chemin. Et elle nous met en route sans que l'on sache. J'aimerais simplement vous vous citez les premiers mots du livre où, qui décident véritablement de l'aventure du héros. Le héros entend en songe, donc ce n'est pas quelque chose qui est très matérialisé, ce n'est pas un billet, ce n'est pas quelque chose qu'il lit dans le journal, c'est en songe. Donc c'est très incertain, c'est très vaporeux, on pourrait dire. Ce sont simplement ces mots, ces quelques mots qui ont l'air anodins et qui vont bouleverser sa vie, qui vont bousculer son destin, qui vont dramatiser sa destinée. Mets-toi en marche et pars à la recherche du trésor perdu. Ce sont ces mots qu'il entend en songe. Il se réveille sur ces mots, et là, bien évidemment, panique. Parce que, pour lui, ce sont des mots aussi clairs qu'un appel téléphonique, sauf qu'il n'y a personne auquel demander des renseignements. Et il reçoit ça comme une sorte d'injonction d'amour. Ce ne sont pas des choses anodines qu'il va raconter à son meilleur copain. Ce sont des choses qui ont tendance à le mettre en marche. Alors me direz-vous, se mettre en marche et partir à la recherche du trésor perdu, ça fait beaucoup de mystères cumulés. D'abord, se mettre en marche, vous êtes d'accord avec moi, il faut une direction, il faut un but. Quel trésor et pourquoi est-il perdu, c'est un grand mystère également. Et bien justement, c'est le tout début de la foi, c'est-à-dire se mettre en marche sans savoir, être ce que frère Daniel et je pense la plupart des religieux appellent cette motion intérieure, c'est-à-dire cet élan qui vient du dedans. Il faut rappeler ici l'étymologie du mot enthousiasme, entéo, c'est-à-dire l'exaltation produite par l'inspiration divine. Et ce jeune homme reçoit ça, véritablement. Ce n'est pas uniquement des mots, c'est une motion intérieure, quelque chose qui lui dit quelqu'un t'attend ou quelque chose t'attend. Tu ne sais pas exactement quoi, mais peu importe. Tu es parti déjà. Donc c'est cet élan qui va le mettre en marche. Et si nous y réfléchissons, nous, en tant que chrétiens, nous demandons souvent beaucoup de preuves. Il nous faut beaucoup d'assurance. Et là, je voudrais simplement rappeler une phrase qui, pour moi, est très vibratoire, qui se trouve dans la Bible, dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, si mes souvenirs sont bons. La foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des choses que l'on ne voit pas. La foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des choses que l'on ne voit pas. Ça va loin, ce n'est pas uniquement une promesse, c'est une garantie et une preuve. Que demander de plus ? Ben on en demande plus, justement. On a besoin de toucher pour être sûr que ça existe. On a besoin de voir pour donner une réalité. Nous avons énormément de peine à donner, finalement, une réalité aux choses de l'invisible, aux choses de l'esprit. Et pourtant, il y a une puissance souverainement active de l'esprit. Alors, comment la découvrir ? Eh bien, justement, c'est par cette succession de signes. Et à un moment, par cet enseignement sur les yeux fertiles, Jean, notre jeune héros, va être pris par une avalanche de signes, je dirais. Non pas que ça survient dans sa vie à ce moment-là, mais ça vient parce qu'il a les yeux pour les lire. Et donc il va y avoir comme un jeu de pistes divin en quelque sorte. C'est-à-dire, brusquement, la vie commence à prendre un sens. Et il se pose la question même, et si tout avait un sens ? Je voudrais m'arrêter à une phrase que Nietzsche a mis à la mode, qui est celle-ci, qui est très énigmatique, c'est « deviens ce que tu es ». C'est assez énigmatique, le « deviens ce que tu es », vous avez dû apprendre ça en classe de philo, en terminale, c'est partie de ces problématiques sans fin, finalement. Parce que, à partir du moment où on est déjà, je ne vois pas pourquoi on serait invité à le devenir. Mais « deviens ce que tu es » met en écho la fameuse phrase de Michel-Ange qui disait « sache des statues qu'elles existent dans le marbre, il suffit de les faire apparaître avec le ciseau. » Ce qui est la preuve que la vie est moins une construction qu'un élagage. C'est-à-dire que la statue préexiste dans le bloc de marbre. Michel-Ange, il ne fait rien d'autre que de la révéler, avec talent. Eh bien, c'est un petit peu ce qui nous est demandé, nous, c'est-à-dire faire de notre vie quelque chose qui, si possible, ressemble à une œuvre d'art. En élaguant, en dépouillant. Et c'est finalement ce travail de simplification, quand il fait clair dans notre esprit, il y fait beau. Et c'est cette simplification qui nous est si compliquée, justement. Donc, petit à petit, Jean va être amené à chercher la clé de ce questionnement existentiel, tout simplement, qui est devenir ce que l'on est. À 18 ans, mais pas uniquement, je pense que beaucoup dans cette salle peuvent se sentir concernés par cette quête qui finalement n'est pas liée aux admissions post-bac, mais s'adresse à tout un chacun. C'est-à-dire, pourquoi suis-je fait ? À quoi ma destinée est-elle destinée ? Et finalement, on s'aperçoit au cours de la vie qu'il y a tout un travail d'ajustement à ce à quoi nous sommes appelés. Alors dans le récit, qui est somme toute assez court, même s'il fait 1072 pages, c'est-à-dire qu'on voit l'évolution d'un jeune homme, et effectivement, il va petit à petit, par la médiation des rencontres, par des épreuves également, apprendre petit à petit à devenir ce qu'il est, et surtout, à quoi il sert. Et il s'aperçoit à un moment que la seule manière de répondre à cette question, la vie, à quoi ça sert, c'est l'écho qui le donne, c'est sert, S-E-R-S. Donc la vie, finalement, c'est dans le service qu'il est possible d'en comprendre la valeur, l'authenticité, le filigrane, en quelque sorte. Alors bien évidemment, ce serait un chemin de rose s'il n'y avait pas cette notion de combat spirituel, car toute quête, finalement, se solde par cette confrontation, c'est-à-dire avec des tiraillements entre ce qu'on va, pour schématiser, bien que ce soit plus complexe, et frère Daniel l'a apporté beaucoup en termes d'explication des manifestations du malin en particulier, sur cette manière, comme dit saint Paul, je fais le mal que je ne veux pas faire, je ne fais pas le bien que j'aimerais faire. Donc c'est ce tiraillement finalement intime. Moi je viens d'Annecy et j'ai comme saint patron un autre François qui est François de Sales, et qui disait la ligne de démarcation entre le bien et le mal est au milieu de chacun d'entre nous. Ça signifie qu'il n'y a pas les bons et les méchants comme dans les westerns, c'est vraiment en nous que se joue cela. Et donc cette aventure, elle est avant tout intérieure, c'est une aventure existentielle. Et petit à petit, on s'aperçoit qu'à travers les lieux que visite Jean dans Fratello, c'est finalement toute sorte de paysage intérieur qu'il est amené à traverser. Et il se laisse également traverser, parce que le but à travers une quête initiatique, c'est pas de traverser la vie, c'est de se laisser traverser par elle. Au même titre que la devise du pèlerin est « ce n'est pas nous qui faisons le chemin, c'est le chemin qui nous fait ». Donc ça, Jean va petit à petit le comprendre, qu'il est façonné par toutes ces rencontres, par tous ces événements qui n'adviennent pas par hasard, mais pour son édification. Et en particulier, il y a toutes sortes de rencontres avec, c'est pas Blanche-Neige et les sept nains, mais c'est Jean et les sept frères, parce qu'il y a au moins autant de frères que dans Blanche-Neige, chacun étant pourvu d'une qualité particulière qui va quelque part correspondre à un manque de ce jeune homme. Voilà, frère Daniel m'a dit de ne pas être trop bavard parce qu'il me connaît bien, donc je vais peut-être lui donner la parole sans trop tarder, mais je voudrais simplement, pour traduire en quelques mots le sens de cette quête, c'est un peu à la fin du livre, il y a cette phrase à laquelle je tiens, c'est « L'orgueilleux est celui qui pense qu'il peut tout faire. L'homme le fidèle est celui qui pense que Dieu peut tout faire en lui. » Et ça, c'est un point de vue qui est extrêmement différent et qui nous permet également de nous réajuster à ce pourquoi nous sommes destinés. Et c'est tout le chemin que fait Jean, qui au début est à cette espèce de juvénilité impérieuse, malgré tous les tâtonnements qui font partie de sa vie, comme de la vie de chaque adolescent de cette tranche d'âge. Et petit à petit, il va comprendre finalement que cette humilité, il va tirer finalement, il va mettre son orgueil en Dieu. Et son humilité, ce sera justement de se placer dans cette motion intérieure, c'est-à-dire de laisser à un moment faire Dieu. Car nous sommes, il est vrai, dans l'âge de faire, F-A-I-R-E, mais nous savons également que si, comme disait Malraux, l'homme est ce qu'il fait, c'est une vérité très juste, mais très incomplète également, parce que l'homme est aussi ce qu'il laisse faire. Et Jean va apprendre justement cette notion de laisser faire qui n'est pas le lâcher prise cher à nos amis bouddhistes, mais qui est plutôt une force de l'abandon, c'est-à-dire qu'il laisse, par sa disponibilité intérieure et le vide qui se crée en lui par justement tous ces questionnements qui l'assaillent, il va finalement s'emplir d'une présence de Dieu qui est comme une petite musique insistante qui va l'accompagner dans tous ses combats et qui va lui permettre de se relever également, parce qu'il y a bien sûr des chutes, sans quoi le héros serait déjà sain et parfait. Et alors que là, il est en quête, donc il est évidemment face à des tribulations qui sont également nécessaires à son identification, car il est évident que les épreuves sont là également pour nous apporter quelque chose. Et ce ne sont pas seulement des occasions de chute, mais aussi des manières de se redresser et de repartir vers des choses plus solides et plus essentielles. Voilà, donc je vous laisse juste avec ces mots que je répète parce que ce sont des mots qui me sont chers. Donc dans l'Épître aux Hébreux, la foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités que l'on ne voit pas. Et soyons assez confiants en Dieu et en la force souverainement active de l'Esprit Saint pour comprendre que ce sont des mots qui ne sont pas magiques, mais qui sont simplement la preuve que quelque chose nous dépasse infiniment. Et quand nous mettons l'exercice de notre volonté en jeu, nous apercevons qu'il y a également d'un côté la volonté, mais il y a la grâce. Et bien souvent, nous faisons l'impasse sur cette part de grâce et qui pourtant est essentielle pour notre accomplissement et notre plénitude. Voilà, merci de votre attention. J'espère ne pas avoir trop accaparé la parole.
Moi, Maître. Moi, je t'écouterai encore pendant 9 ans. Je l'ai écouté pendant 9 ans.
Oui, il m'a supporté pendant 9 ans.
Et je m'en suis pas lassé. Franchement, je m'en suis pas lassé. C'était une belle aventure que nous avons vécue avec François. Comment, parce que vous avez droit à un peu de curiosité aussi. En fait, à la fin d'un camp, pour adolescents, il me dit, je voudrais que tu m'aides à écrire un bouquin pour les jeunes. Et je lui ai dit, pas question. Et puis voilà, et puis 9 ans après, il est arrivé. Pourquoi pas question? Parce que je savais bien que ça allait être quelque chose d'assez contraignant, difficile, compliqué, etc. Puis parce que je suis paresseux aussi, voilà, pourquoi pas question? Et puis pendant ces 9 ans, alors je pensais pas que ça durerait 9 ans non plus, honnêtement.
Moi non plus.
Ouais. Et heureusement que ça a duré 9 ans. Heureusement que ça a duré 9 ans parce que ça nous a permis déjà de bien nous connaître. Moi, je suis amoureux de sa famille, de cette belle famille là-bas qui est dans une terre que j'aime beaucoup, qui est celle de mes ancêtres, qui est la Haute-Savoie, où je suis allé rejoindre François plusieurs fois. Nous avons travaillé ensemble parce que je pense que vous avez quelques curiosités de vous dire, mais comment est-ce qu'on fait pour coécrire un livre? Bon, l'écrivain, c'est lui, hein. Moi, j'ai donné quelques petits coups de pompe. Voilà, j'ai écrit quelques pages qu'il a distillées, voilà, etc. Et c'était une collaboration un peu à ce niveau-là, dans l'amitié, beaucoup de thèmes spirituels que nous avons évoqués. Beaucoup, parmi les grands jeunes qui sont là, d'expériences que nous avons vécues dans nos camps franciscains, que nous avons retranscrits, parce que les quatre fils de François sont passés tous les quatre dans nos camps. Son premier, il l'a envoyé à l'âge de 11 ans, juste avec un portable à un coup, depuis la Haute-Savoie jusqu'à Cholet, et puis les autres par la suite. Et donc c'est ça aussi qui est retransmis. Et puis nous avons aussi vécu une semaine à Assise ensemble, donc nous sommes rencontrés là-bas une semaine entière. C'est d'ailleurs là qu'il a pris cette photo, où c'était pas une montgolfière que je montrais, mais c'était le mont Subasio.
Faut pas le dire.
C'était le mont Subasio, voilà. Et c'était un beau travail, mais justement pour dire à quel point tout ça, c'était un travail intérieur. Dans 9 ans d'écriture, il y a des pauses. Il y a des temps d'attente, il y a des temps d'angoisse, il y a des temps de silence, il y a des temps d'oubli, puis il y a des temps frénétiques. Pendant que moi je célébrais des messes pour Fratello, lui passait des nuits à écrire. Hein, on a vécu aussi ce type de collaboration-là, où il me disait j'écris, jusqu'à en perdre la santé parfois. Une fois, il a eu un coup dur. Bon voilà, c'était jusqu'à des doutes.
Je lui demandais d'arrêter de prier de temps en temps, parce que j'en pouvais plus. Moi, c'était à distance, mais je sentais ça très fort. Hein.
Jusqu'à l'épreuve dans l'amitié aussi. Mais ça aussi, c'est important. Parce qu'on parlait du combat spirituel, il a été parfois aussi entre nous, qui nous a aidés justement à grandir aussi dans l'amitié, dans la confiance. Et ça aussi, c'est une belle synergie que l'Esprit Saint a permis. Si, de mon côté, je devais dire ce qui m'a animé dans ce livre, et on sort d'un chapitre avec des jeunes à Lourdes, où plusieurs sont là ce soir, et je suis très content de les voir. Et les expériences les plus fortes que nous vivons ensemble, et que nous vivons aussi avec les adultes, avec vous, c'est l'expérience de l'effusion du Saint-Esprit, parce que c'est ça qui est essentiel. C'est-à-dire rentrer dans cette capacité que Dieu a de nous transformer par son Saint-Esprit. Et qui ensuite est alimenté, relayé dans la vie, dans le quotidien, par la réflexion, la nourriture intellectuelle, spirituelle, etc. Puis la vie de tous les jours, parce qu'il faut aussi faire la vaisselle et tout le reste. Mais voilà, tout ça, c'est une expérience qui passe aussi par des élévations fortes. Et cette expérience du Saint-Esprit, je pourrais encore mieux la résumer en disant il faut que le Saint-Esprit soit répandu sur le monde. Il faut que le Saint-Esprit soit répandu sur le monde. Et il y a un passage capital que je ne vous livre pas, puisque voilà, il faudra que vous le découvriez par vous-même. Il y a un passage capital où justement le Saint-Esprit est répandu sur le monde. Et c'est peut-être ça aussi le but de la quête initiatique. Alors comment ? Voilà, tout est là. D'ailleurs, ce qui est curieux dans un livre, c'est qu'on peut partir d'une parole, si vous voulez, qui est la parole de Dieu. Bon, François vient d'en citer une. Une parole qui devient expérience. Parce que la parole, elle bouge, elle devient expérience. On fait l'expérience de la parole. La parole, elle se meut, la parole, elle s'anime. Et curieusement, cette parole qui se meut, qui s'anime, qui devient vivante, ensuite elle redevient parole, encore une fois. Pourquoi ? Parce que vous-même, à votre tour, et chacun d'entre nous, nous puissions de nouveau la rendre vivante avec un enrichissement et des enrichissements successifs. Et il faut que l'Esprit-Saint soit répandu sur le monde. Mais c'est curieux. Pourquoi ? Parce que l'Esprit-Saint est déjà répandu sur le monde. Alors, quelle est cette nouveauté de l'Esprit-Saint répandu sur le monde ? C'est l'expérience de chacun. Justement, c'est l'expérience que chacun fait du Saint-Esprit qui fait qu'ensuite cet Esprit pourra être répandu sur le monde. Je suis sûr que quand les jeunes reviennent dans leur famille, leurs parents, leur entourage, et moi aussi, quand on revient, on est transformé. Et notre entourage dit, il y a quelque chose qui s'est passé. Quelque chose qui est advenu. Lorsque Jésus s'incarne dans le monde, Jésus est rempli du Saint-Esprit. Et pendant 30 ans, il est rempli de cette forme du Saint-Esprit qui va le malaxer intérieurement et qui va faire de lui petit à petit l'obéissant du Père, vraiment le fils du Père. Vous imaginez ce que veut dire 30 ans de vie cachée pour un homme qui est venu sauver le monde et qui passe son temps à clouer du bois, à scier des planches, peut-être à sonner des coups de marteau sur les bois, et qui dit pendant 30 ans à son père, « Mais je suis venu pour sauver le monde, quand est-ce que je commence ?» Et ça, c'est une expérience du Saint-Esprit. Et puis au bout de 30 ans, une nouvelle expérience du Saint-Esprit, lorsqu'il reçoit le Saint-Esprit au moment de son baptême, c'est-à-dire au moment où il est tellement disponible, moi je l'imagine tellement à l'âge de 30 ans, où il dit « Mais Père, je suis tellement disponible, tellement donné. » Il ne le dit même pas, il le vit, il est tellement là-dedans que « Fais de moi ce que tu veux. » À 30 ans, on est vieux en Israël. Hein. Dans l'Israël antique, à 30 ans, on est vieux. On est archi-mûr. Il y en a qui sont archi-mariés, qui ont 10 gosses à 30 ans en Israël, dans l'Israël antique. Lui, encore, il n'a rien fait. Tu parlais de se laisser faire, ça me semble vraiment très très approprié, cette notion de se laisser faire. L'important, c'est de se laisser faire par Dieu. Vous avez une fibre franciscaine. Vous savez ce que dit François d'Assise à ce propos-là, non ? Il dit l'important, dans la vie, le plus important que peut demander un serviteur de Dieu, c'est d'avoir la plénitude du Saint-Esprit et de se laisser agir par le Saint-Esprit. Il le dit en italien, « Avere lo Spirito Santo e la sua santa operazione ». De laisser faire la sainte opération de Dieu à l'intérieur de nous. C'est le travail d'une vie. Oui, j'adhère vraiment à ce que tu dis quand tu parles d'une désagrégation, de passer du faire à se laisser faire. Et à 30 ans, Jésus, il est complètement disponible à cet égard. Et Jean, c'est-à-dire chacun d'entre nous, il va apprendre à se laisser faire. Alors que le monde autour de nous apprend le contraire insidieusement, et ça fait partie du combat spirituel, parce que le monde autour de nous dit, en nous trompant, « Ce monde est dangereux, il faut que tu t'en défendes, donc il faut que tu te rigidifies. » Il faut que tu deviennes dur. C'est un langage qu'on entend, non ? Il faut que tu apprennes à être un battant, mais dans le sens où tu t'es tellement durci à l'intérieur de toi que tu vas devenir agressif, que tu vas te faire du mal, et tu vas faire du mal aux autres. Et Jésus, lui, est celui qui apprend à se laisser faire par le Père. Donc à 30 ans, lorsqu'il est totalement disponible, totalement transparent, malléable comme une éponge, il reçoit cette effusion du Saint-Esprit qui va le lancer du coup, pendant 3 ans, dans la puissance. Dans la puissance, il va faire des miracles, il va faire des guérisons. Et on est dans le combat à ce niveau-là. J'ai relu, il n'y a pas longtemps, j'étais quand je suis venu vous voir à Lourdes, je me suis arrêté, j'avais 2 heures d'attente à la gare de Toulouse, j'ai pris ma petite Bible que j'ai toujours sur moi, j'ai regardé les miracles de Jésus dans l'évangile de Luc. Et c'est vraiment impressionnant de voir comme Jésus parle, enseigne, se frite avec les pharisiens, avec les scribes, et fait des miracles. Il recommence, enseigne, parle, se déplace, va ailleurs, va trouver d'autres gens. De nouveau, le fighting avec les scribes et les pharisiens, et fait des miracles. Le miracle fait partie de la vie. Si tu vis une vie dans l'esprit, si tu vis une vie dans l'esprit, tu vas voir des miracles. Et Jean va voir des miracles. Jean va voir des miracles. Et tu vas voir aussi des miracles dans ta vie. Et pendant les 3 ans de vie publique de Jésus, Jésus va être tellement dans l'esprit qu'il va accomplir des miracles. Mais ils sont inscrits dans la vie. Ce n'est pas extraordinaire le miracle. Le miracle fait partie de la vie. Ce qui est extraordinaire, c'est s'il n'y a pas de miracle. Ça, c'est bizarre. S'il n'y a pas de miracle dans ta vie, ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas là. Et le Saint-Esprit, parfois, tu le vis comme dans une douloureuse attente. Lorsque Saint Paul reçoit le Saint-Esprit, il est expédié 3 ans au désert et on n'entend pas parler de lui. Qu'est-ce qu'il fait pendant ces 3 ans au désert? Il apprend à se laisser faire. Il apprend à se laisser faire. Et tous ceux qui ont vécu parmi vous, parmi nous, l'expérience de la maladie, l'expérience de l'échec, l'expérience d'une attente quelconque, ont appris à se laisser faire. Et ensuite, tu ressors d'une façon nouvelle. Pendant 3 ans, Jésus va vivre cela. Il va nous apprendre à vivre cela. Et puis, ensuite, il y a une nouvelle attente, qui est cette troisième partie de la vie de Jésus, qui est celle du don total, qui est celle de la crucifixion, de la trahison. C'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dans ce qu'a développé François. C'est justement ça m'a beaucoup fait réfléchir, François, cette façon dont tu n'as pas planté des personnages manichéens, c'est-à-dire qu'ils soient tout bien ou tout mal, hein, des personnages qui soient tout blanc ou tout noir, justement cette partie du combat spirituel qui est en nous. Ça m'a beaucoup interpellé, là, cette façon dont tu as développé tout cela. C'est vrai que le combat spirituel est à l'intérieur de nous, hein, comme le royaume des cieux est au milieu de nous. Et lorsqu'il y a, vers la fin du livre, cette effusion de l'Esprit, où l'Esprit Saint est de nouveau répandu sur le monde, comme à la Pentecôte, hein, parce que c'est l'effusion de l'Esprit qui nous concerne à nous aussi, mais peut-être qu'elle ne nous concerne pas du tout, sinon on ne la vit pas dans notre vie personnelle. Eh bien, ensuite, tout repart dans la vie quotidienne, comme si de rien n'était. Et voilà, le royaume des cieux est au milieu de vous. C'est ce que la Vierge, et plusieurs fois on a parlé de Marie dans ce livre, ce que la Vierge dit à Sainte Bernadette à Lourdes, je ne te promets pas le bonheur dans ce monde-ci et dans l'autre. Mais l'autre, c'est pas après ta mort, l'autre, c'est dans ce monde-ci, là. Ce qu'on a vécu à Lourdes, c'est dans ce monde spirituel, dans ce monde de l'esprit, là, je te promets le bonheur. Dans l'effusion du Saint-Esprit, là, maintenant. Là, c'est là maintenant où l'Esprit Saint est répandu sur le monde. Maintenant, dans ce moment précis de ta vie, où tu trouves le bonheur, tu t'aperçois que tout est advenu, parce qu'il y en a parmi vous qui ne verront pas la mort avant d'avoir vu le royaume des cieux venir avec puissance. Que celui qui a des oreilles, qu'il entende.